Sanglé dans un corset neuf qui craquait à chaque pas, Eugénie Patineau descendait l'avenue des Peupliers. Elle se sentait déjà lasse au seuil d'une journée qui promettait d'être exténuante. Tarabustée par les enfants, elle avait quitté à regret la fraîcheur de la véranda. Si son maintien parvenait à donner l'illusion d'une dignité imposante, à l'intérieur, c'était la débandade. Poumons compressés, estomac révulsé, douleur sourde à la hanche et, par-dessus le marché, palpitations.
« Ne courez pas, Marie-Amélie ! Hector, cessez de siffler, cela fait mauvais genre !»«
Ma tante, nous allons rater l'omnibus ! Hector et moi, on monte sur l'impérial, vous avez bien pris les billets d'entrée !»
Eugénie s'arrêta, ouvrit son réticule, s'assura de la présence des billets achetés quelques jours plus tôt par son beau-frère.
« Vite, ma tante !»
la pressa Marie-Amélie. Eugénie lui jeta un regard noir. Cette gamine avait le don de l'exaspérer. Hector ne valait guère mieux, un petit coq capricieux. Seul l'aîné, Gontran, était supportable, à condition qu'il se taise. Une dizaine de passagers attendaient à la station de la rue d'Auteuil. Eugénie reconnut Louise Vergne, la femme de chambre d'Elemasson. Chargée d'une panière, elle portait du linge à la blanchisserie, probablement celle de la rue Mirabeau. Sans la moindre retenue, elle essuyait son visage blême à l'aide d'un mouchoir aussi grand qu'un drap. Impossible de l'éviter. Eugénie refoula sa contrariété. Cette domestique la traitait d'égal à égal avec une familiarité déplacée. Cependant, elle n'avait jamais osé la rappeler aux convenances.
« Ah, Madame Patineau, quel mois de juin ! De quoi fondre !
Ça ne te ferait pas de mal, » marmonna Eugénie.
« Vous allez loin, Madame Patineau ? À l'expo. Ces trois diables ont supplié ma sœur de les y emmener. Oh, oh, ma pauvre, vous êtes de corvée. Vous n'avez pas peur, tous ces étrangers ? Moi, je voulais voir le cirque de Buffalo Bill à Neuilly. Il y a de vrais peaux rouges qui tirent de vraies flèches. Hector, assez ! Ah, c'est joli. Il a enfilé des chaussettes de deux paroisses, une blanche, une grise.
Il arrive, ma tante, il arrive !
Tiré par trois chevaux flegmatiques, l'omnibus A s'immobilisa le long du trottoir. Hector et sa sœur se ruèrent vers l'impérial.
On voit tes pantalons !
Lança Hector.
Ce que je m'en fiche, de là-haut, c'est aux pommes !
Rétorqua la fillette. Assise près de Gontran, qui ne la lâchait pas d'un pouce, Eugénie pensait que l'on passe les pires moments de son existence dans les transports en commun. Elle détestait se déplacer, être seule, perdue, pareil, à une feuille morte flottant au gré du moindre souffle.
« Vous vous êtes offert une nouvelle toilette ?»
demanda Louise Vergne. La perfidie de la question n'échappa pas à Eugénie.
« C'est un cadeau de ma sœur, »
répondit-elle sèchement en lissant la soie de la robe ponceau qui la boudinait comme un saucisson de lion. Elle omit de préciser que sa sœur l'avait déjà portée deux saisons et ajouta d'un ton suave
« Attention, ma bonne, vous allez manquer votre arrêt. »
Ayant cloué le bec à l'importune, elle ouvrit son porte-monnaie et fit ses comptes, satisfaite d'avoir préféré l'omnibus au fiacre. L'économie réalisée irait grossir sa pelote, cela valait le sacrifice. Louise Vergne se leva, très raide, telle une duègne offensée.
« Si j'étais vous, je cacherais mon sac. Il paraît que tous les pickpockets de Londres ont émigré au Champ de Mars. »
jeta-t-elle avant de descendre. Gontran prit aussitôt le relais.
« Savez-vous qu'il a fallu fabriquer 18 000 pièces dans les ateliers de Levallois-Perret et que 200 ouvriers ont suffi à les assembler sur le chantier ? On prédisait qu'elle s'écroulerait, passée 228 mètres. Elle a tenu bon. »
« L'écluse est ouverte, » pensa Eugénie.
« De quoi parlez-vous ? Mais de la tour, voyons !» « Tenez-vous droit et mouchez-vous, vous avez une saleté. » Si on voulait la transporter ailleurs, sur des roulettes, il faudrait 10 000 chevaux !»
enchaîna Gontran en se frottant le nez. Hector et Marie-Amélie déboulèrent de l'impérial.
« On arrive, regardez !»
Dressée vers le ciel de l'autre côté de la Seine, la tour couleur bronze de Gustave Eiffel évoquait un lampadaire géant couronné d'or. Affolée, Eugénie chercha un prétexte pour se dispenser de l'escalader, n'en trouva aucun, posa une main sur son cœur en cavale.
« Si j'en réchappe, » se promit-elle, « j'irai réciter 50 paternoster à Notre-Dame d'Auteuil. »
L'omnibus se rangea devant le palais du Trocadéro, énorme usine à gaz flanquée de minarets. Tout en bas, par-delà le ruban gris du fleuve sillonné de bateaux, s'étalaient les 50 hectares de l'exposition universelle. Les doigts crispés sur son sac, l'œil rivé aux enfants, Eugénie entama sa descente aux enfers. Elle dévala au pas de charge la colline de Chaillot, dépassa sans les voir l'étalage des fruits de la planète, des bonsaïs torturés du jardin japonais, la bouche sombre du voyage au centre de la terre. Les baleines de son corset lui sciaient les côtes, ses pieds imploraient grâce, elle avançait sans ralentir l'allure. En finir au plus tôt, atteindre un terrain plat. Enfin, elle tendit ses billets et poussa les enfants sous le vélum du pont d'Iéna.
« Écoutez-moi attentivement, scanda-t-elle. Si vous vous éloignez d'un centimètre, je dis bien un centimètre, nous rentrons. »
Puis elle plongea en plein sabbat. Le monde entier jouait des coudes parmi les kiosques multicolores. Un fleuve humain déferlait. Français, étrangers, noirs, blancs, jaunes. Des minstrels de Leicester Square aux faces frottées de suie les entraînaient rive gauche en une cavalcade rythmée par des banjos. Le cœur chavirait, les oreilles agressées, Eugénie s'accrochait à Gontran que ce tohu-bohu laissait imperturbable. L'exposition semblait se jeter sur eux de tous côtés. Ballottés entre les marchands ambulants, les tireurs de pousse-pousse anamites, les âniers égyptiens, ils parvinrent à rejoindre la file d'attente devant le pilier sud de la tour. Toute volonté abdiquée, Eugénie guigna avec envie de jeunes élégantes confortablement installées dans des fauteuils roulants poussés par des employés à casquette.
Oh, « c'est ça qu'il me faudrait !» « Ma tante, vous avez vu ?»
Elle leva la tête, découvrit une forêt de croisillons et de poutrelles au milieu desquelles glissait un ascenseur. Alors elle fut saisie d'un irrépressible désir de fuir aussi vite et aussi loin que ses jambes fatiguées pourraient la porter. À travers un mur de coton, elle percevait la voix monocorde de Gontran.
« 300 à mètre, mène tout droit au deuxième étage. 4 ascenseurs, Otis, Combalusier. »
Otis, Combalusier. Ces noms étranges se matérialisèrent soudain en boulet wagon d'un roman de Jules Verne. Le titre lui échappait.
Ceux qui préfèrent grimper les 1710 marches auront besoin d'une heure.
Ça lui revenait. De la Terre à la Lune. Et si les câbles lâchaient?
Ma tante, je veux un ballon gonflé au gaz. Un bleu, un sou, ma tante, un sou.
Une gifle, oui. Elle se maîtrisa. Une parente pauvre, hébergée par pure charité, ne peut donner libre cours à ses impulsions. Elle tendit à regret un sou à Hector. Impassible, Gontran récitait toujours le petit guide de l'expo.
« En moyenne, 11 000 visiteurs par jour, et la tour peut accueillir 10 000 personnes en même... »
Il s'arrêta net, conscient du regard glacé que lui décochait l'homme juste devant eux, un Japonais d'âge mûr tiré à 4 épingles. L'homme le fixa sans scier jusqu'à ce qu'il baisse les yeux, puis se retourna lentement, satisfait. Lorsqu'elle se retrouva face au guichet, Eugénie éprouva un tel sentiment de panique qu'elle ne put aligner deux mots. Marie-Amélie la poussa de côté, se haussa sur la pointe des pieds et claironna
« 4 tickets pour la deuxième plateforme, s'il vous plaît !»«
Pourquoi si haut, la première suffirait ?» balbutia Eugénie.
« Nous devons signer le livre d'or au pavillon du Figaro. Vous avez oublié? Papa y tient. Il veut lire nos noms dans le journal. Payez, ma tante !»
Propulsée au fond de l'ascenseur contre un Japonais dont l'expression reflétait un émerveillement enfantin, Eugénie se laissa choir sur une banquette de bois en recommandant son âme à Dieu. Une réclame entrevue dans le journal des modes monopolisait son esprit. Manque de fer, anémie, chlorose, le fer bravait reconstitue le sang des personnes fatiguées.
Bravait, bravait, bravait,
psalmodia-t-elle à mi-voix. Un choc. Le cœur au bord des lèvres, elle vit défiler les mailles rouges d'une volière. Le temps de penser «
Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici ?»
L'ascenseur s'était immobilisé au deuxième étage, à 115,73 mètres au-dessus de la terre ferme. Adossé au grillage du premier étage de la tour, Victor Legris guettait le va-et-vient des ascenseurs. Son associé lui avait donné rendez-vous entre le restaurant flamand et le bar anglo-américain. La galerie était bondée. On sentait vibrer un courant excitant. Les femmes poussaient de petits gloussements nerveux. Les hommes se lançaient dans des discussions animées. Ceux qui revenaient pour la seconde fois affichaient des mines blasées. Les ascenseurs s'arrêtaient, déversaient leurs cargaisons, chargeaient, repartaient. Une procession bigarrée s'étirait le long des escaliers. Victor desserra le nœud de sa cravate, déboutonna le col de sa chemise. Le soleil tapait dur, il avait soif. Le chapeau à la main, il se faufila jusqu'à la boutique de souvenirs.